J'ai vu passer à la Concorde un homme plutôt âgé, aux cheveux filasses, qui fumait une cigarette dans son énorme Jeep Wrangler. Le plus étrange, c'était que ce n'était pas Houellebecq. Mais je me suis souvenu alors à quel point les adjectifs parisiens et houellebecquiens ont été étroitement synonymes pour moi dans les années 90. Les parisiens, c'était avant tout un type spécial d'homme qui portait des imperméables, qui travaillait dans la télématique ou au Crédit Lyonnais. Tu déjeuneras seul d'un panini saumon dans la rue de Choiseul et tu trouveras ça bon. Ils étaient également chauve, célibataire et sous antidépresseur. S'il pouvait recourir enfin au service d'une prostituée, j'ai connu encore en 2000 la rue Saint-Denis à son intensité sexuelle maximum et toute gainée de vinyle. Et je les imaginais aisément s'acheter des voitures exclusivement pour déambuler au pas dans les allées du Bois de Boulogne. Ce qui les singularisait vraiment, c'est qu'ils possédaient des magnétoscopes et d'imposantes collections de vidéos pornographiques. C'était l'image que j'avais de Paris quand j'arrivais alors par l'avenue d'Italie. Les rez-de-chaussée des immeubles étaient tous occupés par des réparateurs de télé, des installateurs d'autoradio, des boutiques de hi-fi. Les rez-de-chaussée parisiens fumaient des clopes et dénudaient des fils. Il en est resté longtemps, peut-être existe-t-elle encore, une minuscule échoppe en haut de l'avenue des Gobelins qui vendait par milliers des objectifs interchangeables pour appareils photo, comme une grotte anormalement remplie de symboles phalliques. Aussi loin que je remonte dans mon apprentissage de la sexualité, des objets techniques s'interposent. Un été, dans une maison que mes parents avaient louée, j'avais trouvé une pile de magazines de tuning providentiellement remplis de mannequins dénudés. J'avais aussi, à cause d'un râteau d'antenne inadapté, beaucoup de difficultés à capter M6, qui avait entrepris pourtant, avec une émission appelée Sexy Zap, la synthèse improbable entre le film pornographique et la télé des inconnus. J'ai connu enfin, grâce aux irritants grincements d'un modem 56K, les joies du peep show à domicile. Il fallait parfois plus d'une minute pour que la poitrine apparaisse. L'idée de faire l'amour avec une machine ne m'est ainsi pas aussi étrangère qu'elle devrait, et l'existence de robots sexuels ne m'apparaît pas absolument comme une monstruosité. Un ami m'avait fait découvrir, en 2000, le manifeste Contrat sexuel de la philosophe Béatrice Preciado, et la chose nous avait plutôt amusé. On pouvait, expliquait-elle, sexualiser n'importe quelle partie de notre corps, il y avait même des schémas, un avant-bras, une épaule, pouvaient devenir des organes sexuels primaires, et le livre se terminait par un contrat détachable qui offrait à ses signataires le libre usage de telle ou telle partie de nos corps. Je n'avais pas réalisé alors que c'était à peu de choses près la même utopie pansexuelle qu'à la fin des particules élémentaires, quand Houellebecq imagine des humains entièrement recouverts de corpuscules de Krause et ressentant, au moindre contact, des orgasmes infinis. J'étais là, évidemment, en terrain connu, dans un Kama Sutra spécialement retraduit pour moi dans le style clair et avenant des notices de construction légotechnique. Des livres de Houellebecq, je retiens d'ailleurs mieux les obsessions technophiles que les exaltations sexuelles. Ma scène de sexe préférée dans toute son œuvre, c'est celle qui confronte Daniel dans La possibilité du Nil à un vieil appareil photo. La manivelle permettant l'entraînement de la pellicule tournait sans heurts, les lamelles de l'obturateur s'ouvraient et se refermaient avec un petit bruit soyeux. Une journaliste m'avait dit ça un jour. Les garçons aiment le bricolage à cause de leurs organes sexuels externes. Cela m'avait laissé un peu perplexe. Fallait-il dès lors faire des femmes des lectrices de romans pour d'obscures raisons d'invagination mentale? Je repense en même temps à mon vendeur d'appareils photo de l'avenue des Gobelins et je m'interroge sur Houellebecq, dont je sais qu'il habite une tour quelque part là-bas dans le 13e arrondissement. Tour qu'il met en scène dans la très belle fin de Sérotonine, comme l'ultime refuge de son héros. À ceux qui longtemps ont fait de Houellebecq un sociologue plutôt qu'un écrivain, je répondais en général que c'était essentiellement un styliste. J'aurais tendance aujourd'hui à voir en lui une sorte de stylite, une figure moitié mystique et moitié expiatoire. Mais en raison de cette impression agaçante qu'il donne parfois que le pénis des hommes est le centre du monde, thèse étrange pour un adversaire déclaré de la psychanalyse, je m'interroge aussi sur le symbolisme exact de cette tour qui clôt pour le moment son œuvre.